Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir. Situation sécuritaire au nord Kivu. Les autorités locales dénoncent la résurgence des groupes armés à caractère ethnique. Qu'est-ce qui est à la base de la résurgence de ces groupes armés? Toutes les initiatives proposées à ce jour peuvent-elles ramener la paix dans cette partie du pays? Nos invités dans cette émission sont Arsène Mouaka, coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il est en ligne. Monsieur Mouaka, bonsoir.
Bonsoir.
Didier Bitaki, porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Monsieur Bitaki, bonsoir.
Bonsoir.
Djuma Balikwisha, ministre provincial du plan budget, information et presse, et porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Monsieur le ministre provincial Balikwisha, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vos réactions, nous les avons également. Georges Debeni au Nord Kivu, les autorités congolaises ont-elles encore une main mise sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu? La communauté internationale doit sincèrement aider le gouvernement pour une solution durable. Chimanga Koko de Mbandaka à l'Équateur, le gouvernement congolais et la MONUSCO doivent ensemble prendre des dispositions pour renforcer la sécurité à l'est du pays, surtout en ce moment où les élections s'approchent. Merci de nous suivre à Beni dans la province du Nord Kivu, où vous nous suivez sur 92.0 FM. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La question des groupes armés fait encore parler d'elle malgré les accords signés à Goma le 23 mars 2009 qui consacrent leur disparition. La récente tuerie des trois casques bleus la semaine dernière à Kirumba au sud de Lubero, la prise d'otages ainsi que les attaques à répétition contre plusieurs villages en territoire de Walikale constituent les derniers événements qui font ressurgir à nouveau la notion de groupe armé dans cette province. Alors, peut-on dire que les groupes armés seraient effectivement en train de refaire surface dans cette province? Et pourquoi? Réponse avec vous, Jungala Wamona.
Les autorités du Nord Kivu parlent de groupes armés collés aux communautés ethniques. Pourtant, les accords du 23 mars 2009 à Goma étaient censés mettre fin à l'existence des groupes armés au Nord Kivu. Pour Didier Bitaki, membre du comité national de suivi des 10 accords et ancien du groupe Mai Mai Kifuafua, cette situation reste la conséquence de l'échec du processus d'intégration politique et militaire des ex-groupes armés.
Il était convenu que l'intégration devait donc connaître l'implication de tous les acteurs qui ont signé les accords. Malheureusement, après la réduction massive des combattants du FNDP, le gouvernement semblait oublier qu'il y avait suffisamment d'acteurs qui devaient participer. C'est ainsi que certains groupes vont rester encore actifs avec leurs armes sur le terrain. Et aujourd'hui, ce sont ces groupes qui sont en train de sécuriser les gens.
Côté analyste, on pense également que le gouvernement congolais n'a pas tenu compte de l'équilibre que requiert la satisfaction des ambitions des uns et des autres. Deo Timéré, chercheur et enseignant à l'Université de Goma.
C'est un problème d'équité, c'est un problème de justice. Ou bien alors qu'ensemble ils mettent des critères, de manière à ce que ces critères-là ne s'appliquent pas seulement pour certains, mais ça s'applique pour tout le monde. Et qu'il n'y ait pas des critères qui puissent donner beaucoup plus à certains, et des critères qui donnent moins aux autres.
Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Merci Jules Ngala, Monsieur le ministre Djuma Balikwisha. Qu'est-ce qui, d'après vous, est à la base de la résurgence de ces groupes armés?
On peut évoquer plusieurs points par rapport à cette résurgence. D'abord, il faut souligner une chose, c'est que depuis les accords du 23 mars 2009, il y a eu aussi les accords de Nairobi. Depuis tout ce temps, quand même, nous avons, sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila Kasanke, nous sommes entrés à plein dans le processus de la paix. C'est-à-dire, on ne parle plus vraiment de groupes armés comme à l'époque on parlait du CNDP, mais pour le moment, maintenant, nous avons à faire face à des groupuscules. Et cette situation des groupuscules maintenant qui règne, parce que maintenant, nous avons quand même un calme relatif, cela est dû, à mon sens, à un certain nombre de repositionnements des leaders politiques. parce que pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux semaines, nous avons appris qu'il y a certains leaders politiques qui se sont retrouvés dans un de nos territoires où ils ont réuni les jeunes et qu'ils appelaient ces jeunes à la résistance. Ils appelaient ces jeunes à la résistance. Bon, et ce recrutement politique aussi s'explique par les enjeux maintenant qui se profilent à l'horizon, c'est-à-dire les élections. Voilà un peu cet aspect que je voulais soulever pour montrer que cette résurgence n'est pas innocente comme telle, mais c'est face aux enjeux et à ce repositionnement politique.
Mais, monsieur le ministre, le repositionnement politique constitue-t-il la seule raison qui fasse qu'il y ait de plus en plus de groupes d'armées, d'après vous?
Bon, si on fait une analyse d'une façon approfondie, je peux dire oui, parce que ça, malheureusement, c'est un peu regrettable de le dire, c'est que nous sommes face à une situation où, au niveau de la classe politique congolaise, c'est-à-dire les partis politiques, il y a vraiment une absence d'idéologie politique. L'absence d'idéologie au sein des différents partis politiques fait que les gens versent très facilement dans la manipulation des sentiments ethniques. Voilà un peu donc la crise. Certes, le Nord Kivu est un chantier, mais je pense le mal est profond à travers toute la République, parce que ce sont les partis politiques qui doivent éduquer les masses, qui doivent éduquer et le peuple à revenir aussi au bon sentiment. Malheureusement, de ce côté-là, il y a une certaine carence.
Monsieur le ministre, il y a deux auditeurs, Arnold Ombeni Mwongo, qui est à Bukavu Sud-Kivu, qui dit « La résurgence des groupes armés est la conséquence de la négligence affichée par le gouvernement central vis-à-vis d'autres groupes autres que le CNDP. Seul ce dernier mouvement a trouvé son compte dans les accords de Goma. » Sikiri Saïdi Papi, il est à Ouvira au Sud-Kivu également, il dit « La résurgence de l'insécurité au Nord-Kivu est la conséquence de la non-application par le gouvernement des recommandations données par les groupes armés et les groupes ethniques à la conférence sur la paix, la sécurité et le développement du Nord et du Sud Kivu tenue en janvier 2008 à Goma. Qu'est-ce que vous leur donnez comme réponse ?»
Bon, en fait, dans l'imaginaire populaire, effectivement, depuis tous ces accords, et nous enregistrons effectivement ce genre de plaintes où certains groupes armés estiment qu'on a favorisé un tel groupe armé, notamment le CNDP pour ne pas le citer, par le fait qu'ils ont comme l'impression qu'on n'a plus affaire à une armée républicaine à partir du moment où on laisse seulement le CNDP. On ne peut pas déployer ces groupes armés dans d'autres provinces. Ils restent fortement concentrés dans la province du Nord Kivu, et cela crée à certaines personnes un sentiment de chercher à prétendre qu'ils se défendent, c'est-à-dire on utilise maintenant le langage plus localiste, où on dit qu'on est en train aussi de protéger les intérêts locaux. Bon, cela c'est un sentiment, mais je pense, ici il ne faut pas oublier que nous sommes dans un processus, nous sortons d'une situation de guerre déclarée. Aussi, on est en train d'aller vers la phase, disons, dans le processus de la paix. Donc, comme je disais, c'est un sentiment qui est généralement partagé surtout par certains groupes armés. Mais je pense que c'est une question de quelque part intentionnelle. Et les gens veulent recouvrir rapidement la paix, disons, à 100%.
Didier Vitaki, vous êtes porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Dans le reportage que nous a proposé Jules Ngala tout à l'heure, on a suivi, vous parlez, vous, de l'échec de l'intégration comme la cause principale de la résurgence de ces groupes armés au Nord Kivu.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour la question que vous évoquez là, je suis tellement ravi du fait que le ministre ait reconnu d'abord la culpabilité du gouvernement dans le traitement partial des questions des groupes armés. Ça, c'est d'abord un peu positif et qu'il ait reconnu officiellement aujourd'hui, après beaucoup de temps que nous sommes en train de le dire. Pour le moment, il faut dire qu'il y a résurgence des groupes armés. Moi, je dirais non. Il n'y a pas résurgence des groupes armés. ce sont les groupes qui existaient auparavant, qui continuent à exister, ce sont les mêmes combattants, il n'y a pas de nouveau groupe qui a vu le jour. Ce sont les anciens combattants qu'on est en train à tort de dénommer groupe résiduel ou combattant résiduel, qui sont toujours sur le terrain. Parce que vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je le dis. Est-ce qu'il y a eu réellement intégration ou non? Il n'y a pas eu intégration. À ce stade, moi, je parlerai d'une alliance CNDP gouvernement qui existe, qui ne signifie pas en soi une intégration comme telle. Parce qu'une intégration suppose l'appartenance des combattants du CNDP à l'armée nationale. L'appartenance des combattants ici de ce groupe armé à l'armée nationale, c'est ça ce qu'on appelle intégration. Mais aujourd'hui, quel est l'acte juridique qui prouve que réellement le CNDP a intégré le gouvernement? Je vous donne un cas illustratif. Récemment, ici, il n'y a pas deux semaines, que le CNDP a fait montre de son indépendance politique et administrative vis-à-vis du gouvernement, lorsqu'un officier qui se trouverait actuellement à Walikal devait être démis de ses fonctions et mis en prison peut-être pour question d'enquête ou pour question de vérification. Vous avez la preuve que c'est toute la force du CNDP qui s'est abattue sur l'auditorat militaire, anéantissant la force qui était là, récupérant immédiatement, 20 minutes après, le combattant et leur compagnie d'armes qui était déjà entre les mains de l'auditeur. Cela signifie que le CNDP enfin ne reconnaît même pas l'existence du pouvoir de l'armée qu'on appelle le FARDC. C'est un allié, ce que nous considérons. Le FARDC a cherché une alliance auprès du CNDP. Quant à ce qui concerne les autres groupes d'armées, après que le gouvernement et le CNDP ont tissé cette alliance, le gouvernement a semblé oublier qu'il avait signé un accord avec les autres groupes armés, les autres groupes armés qui étaient ses anciens alliés. Et maintenant, c'est ce qui est en train de choquer ce groupe. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a des troubles par-ci par-là. On n'a pas vidé l'opposition des groupes armés. Ils sont toujours là. Et il faut qu'on définisse les modalités de leur intégration. Si on ne veut pas le faire, ils ne sont pas que chaque jour, on essaie un peu de plaire sur les conséquences qui arrivent. Lorsqu'on a mal choisi la voie à travers laquelle on pouvait trouver des solutions. Donc la faute incombe actuellement au gouvernement et il doit l'assumer. Et je suis content que le ministre l'ait reconnu aujourd'hui cette fois.
Didier Bitaki a deux autres auditeurs, Kayamba Antoine Karoko de Walikale au Nord Kivu qui dit « Les politiciens de Douma et de Kinshasa cherchant à se positionner, à s'enrichir, créent des milices locales sous prétexte de défendre leur milieu d'origine alors qu'en réalité on est devant des rébellions en gestation ou par Kémo David de Bounia en province orientale dit presque la même chose. La résurgence des groupes armés n'est que la conséquence logique de la mauvaise politique du gouvernement central. Cela s'explique par le fait que certains politiciens congolais tirent profit de cette situation des groupes armés. La majorité de ces groupes armés sont à localiser dans les zones d'extraction de minerais. Le ministre Djuma Balikouis a tout à l'heure a fait observer qu'il s'agirait plutôt d'un problème de repositionnement de certains politiciens. Comment vous percevez cette observation?
C'est une observation erronée. Il n'y a pas question de repositionnement politique. D'ailleurs, je rappelle au ministre que l'ensemble des cadres politiques ayant signé avec le gouvernement les accords de paix de Goma, parce qu'à Nairobi, il n'y a pas eu accord, nous avons rapatrié les négociations à Goma et moi, je fais partie de toutes les délégations qui devaient discuter des modalités qui nous ont amenés à la signature de ces accords. En réalité, il n'y a pas de question de positionnement. Nous-mêmes, qui avons signé ces accords, nous sommes là, nous sommes nulle part. Nous n'avons jamais demandé qu'on nous fasse un poste quelque part. Sauf si peut-être le gouvernement pourrait se rappeler que réellement, il a fait des promesses et il devait les honorer. Est-ce que lorsque les gens réclament l'application de ces accords et que visent donc et cherchent un repositionnement, je crois l'observation du ministre est erronée. En deuxième lieu, lorsque les auditeurs disent que c'est la mauvaise politique du gouvernement, mais certainement, de la mauvaise politique du gouvernement, parce que lorsque le ministre, qui était jadis aux affaires étrangères, avait conclu les accords à Nairobi, lesquels accords devaient permettre qu'il y ait déjà démantèlement des groupes armés extérieurs et étrangers, notamment les FDLR. Il n'a pas su comprendre que sur le terrain, il y avait d'autres réalités que le gouvernement ne contrôlait pas. Donc cette mauvaise politique continue jusqu'à aujourd'hui. Vous venez de suivre. Comment est-ce qu'on a publié abusivement, en violation flagrante de la Constitution, le calendrier électoral?
qui prolonge les mandats des institutions en place. Alors qu'on n'a pas d'armée, alors qu'on n'a pas de police, alors qu'on n'a pas de système de sécurité efficace.
Merci.
Lorsqu'on va dépasser le délai victoire, avant que l'armée on prétend défendre ce pays, lorsqu'il y aura déjà une légitimité des institutions, que sont les guerres d'histoire, qui font que la population se pose des questions pareilles. Mais c'est une mauvaise politique que nous devons absolument corriger.
Merci Didier Bitaki. Arsène Moaka, vous êtes coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi le ministre Djuma Balikwisha et Didier Bitaki. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Oui, je crois que dans tout ce qui est dit, il y a une partie de vérité et il y a une analyse lucide et mélangée évidemment avec ce qui caractérise notre pays, c'est-à-dire on trouve dans chacune des occasions l'opportunité de pouvoir donner des communications politiques. Mais moi, je crois que la question des groupes armés, parce que j'ai aussi difficile à dire qu'il y a résurgence, et j'estime que les groupes armés sont restés intacts et leurs acteurs sont restés dans le bourg, dans le village, sur les collines, à telle enseigne que ce sont ces mêmes éléments qui servent et qui prêtent leur service à toutes les occasions qui se présentent. Et donc, je crois qu'il y a une sorte de socle tectonique des conflits au niveau du Nord Kivu qui est fait des cocktails pratiquement de conflits qui se sont profilés sur la cinquantaine d'années de post-colonial, en fait, du Nord Kivu, et qui fait qu'à chaque aventure, à chaque conjoncture, en fait, correspond des acteurs disponibles à servir. Et donc là, on est dans un tournant où il y a des acteurs qui sont pratiquement disponibles et on va assister à une grande aventure. Et cela est situé à la fois dans le passé récent du Nord Kivu, mais aussi dans le passé relativement ancien. Et donc, je crois qu'on est à face des entrepreneurs d'insécurité, déjà qui ont choisi la profession d'insécuriser un milieu pour vivre, parce que finalement c'est devenu un mode de production. Les gens vivent de l'insécurité. Et ce sont ces acteurs qui, aujourd'hui, réapparaissent et s'expriment. Et je crois qu'un de leurs porte-parole, Didier Bitaki, dit qu'il s'agit de dire au gouvernement qu'il n'a pas respecté un accord. Et donc, l'expression violente qui est choisie n'est qu'un moyen. Mais moi, je crois que même si cet accord était respecté, eh bien, on ne va pas rapidement élaguer cette page, d'autant plus que le problème est plus profond que cet accord. Il s'agit d'un millier infesté et qui souffre d'une crise d'un État incapable de s'imposer, incapable de s'assumer dans ses attributions régaliennes et d'instaurer de l'ordre dans un milieu qui le demande. Et donc, le passé récent, le CNDP, qui lui aussi continue à réclamer, parce qu'on ne doit pas l'ignorer, le CNDP n'est pas satisfait non plus avec cet accord. Et donc, la formule est assez connue, on prend les armes, on tire en l'air, on tire sur les gens, on sécurise un milieu, et après on revendique des postes politiques et militaires. Et donc, à chaque étape, on est satisfait et on reprend. C'est une excroissance d'une activité qui désormais est attribuée dans les répertoires d'activité du Nord Kivu et de l'Est du pays.
Arsène Moaka, vous venez de dire que le problème du Nord Kivu est profond. Il y a cet auditeur, Christophe de Boutembo, au Nord Kivu, qui dit « Aussi longtemps que la RDC aura des dirigeants qui sont passés par différentes rébellions, les milices tribales existeront toujours au pays. »
Oui, c'est une partie de la vérité, d'autant plus que on l'a vu charretier, on l'a vu peut-être pêcheur, cultivateur, et rapidement ils saisissent à un rang de grands commandants, de grands ministres, de ceci, et donc tout le monde peut se dire que le rêve est permis, et donc du coup, on prend un village, on le revendique, on prend quelques casques bleus, comme ça s'exprime rapidement, et tout de suite on a le pouvoir. Et donc, qu'une telle aventure ne se fera pas, et on choisit de s'exprimer dans le langage qui est le plus facile, c'est de dire, on se bat pour telle ethnie ou pour tel coin, et je crois que dans ce sens, le cycle ethnique ne s'arrêtera pas.
Monsieur le ministre, Djuma Balikwisha, Arsène Mouaka et Didier Bitaki l'ont presque dit, les groupes armés sont restés intacts et qu'il ne s'agirait pas de résurgence comme vous le soutenez.
Bon, disons, c'est une opinion, dire que les groupes armés sont restés intacts, mais à ce que je sache, après la signature des différents accords, on avait déjà déclaré solennellement, et Didier Bitaki était bien présent, que c'est la fin des groupes armés et que toute organisation ou tout groupe qui se déclarait d'être un groupe armé sera considéré comme un groupe de bandits.
Sur papier, bien sûr.
C'était là présent. Donc, effectivement, certains même commandants ou leaders de ce groupe armé ont réintégré, disons, les FRDC. Alors, ce que je déplore ici, même dans les propos de Didier Bitaki, c'est de dire que non, les accords n'ont pas été respectés. Pour cela, nous devons maintenant exposer les vies humaines de nos populations. On doit les massacrer pour faire attendre notre voix. Cette logique-là, je pense qu'il faut qu'on commence à bannir une telle logique dans nos modes de fonctionnement. S'il y a eu des accords, si on estime que les accords n'ont pas été respectés, pourquoi ne pas demander qu'on se retrouve encore autour d'une table pour trouver des voies et moyens pour résoudre les problèmes plutôt que d'exposer la vie de nos populations, tous ces gens-là qu'on arrive à tuer par toutes ces actions, il ne faut pas revenir. Ce sont ces jeunes là qui pouvaient construire le Congo de demain, et là, comme l'a dit mon Arsène, là, on va continuellement entrer dans le cycle de violence, se positionner, crier fort, massacrer la population pour revendiquer tel poste ministériel, tel poste au sein de l'armée. Cette logique-là, on doit la bannir, je suppose, je pense.
Monsieur le ministre, le constat fait est qu'on a l'impression que le gouvernement a fait beaucoup de pression à ces groupes armés, hein, sans les tenir. Pourquoi le gouvernement aussi, pour sa part, prend, entre guillemets, permettez-moi le terme, plaisir à prendre des accords, des engagements qu'il sait qu'il ne tiendra pas?
Non, on ne peut pas dire que le gouvernement prend des accords dont il sait qu'il ne tiendra pas. Ici, il faut savoir que nous sommes dans un processus. D'abord, essayons d'interroger l'histoire. D'où venons-nous? Aujourd'hui, au Nord Kivu, particulièrement à Goma, il ne se passait pas une seule nuit où il n'y avait pas de perte en vie humaine. Il n'y a même pas 2 ans, tantôt on parlait de Kichanga qui est occupé, tantôt on parlait de Congo et tout cela est déjà fini. Donc nous sommes dans un processus. Je comprends l'impatience dont se montrent certaines personnes, mais il faut quand même qu'on évalue les choses à sa juste valeur. À sa juste valeur, c'est-à-dire que, certes, nous étions dans le creux de la vague, mais là, nous sommes en train d'y sortir tout doucement, mais là, et tout ce qui est en train de se passer, c'est que, c'est, comme on dit toujours, l'impatience ou la précipitation est une mauvaise conseillère. Nous sommes dans cette situation-là où les gens veulent, comme par un coup de baguette magique, qu'on recouvre directement la paix. Où les gens veulent, parce qu'ils ont signé tels accords directement, qui des ministres, donc qu'on s'en parle de tout. Mais c'est tout un processus, donc on doit voir comment on peut placer les pions par-ci, par-là.
Merci, monsieur le ministre. Didier Bitaki, vous avez vous-même reconnu que vous, les ex-groupes armés, vous êtes restés intacts. Alors pourquoi avoir pris comme option la violence comme seul moyen d'expression?
Écoutez, d'abord, je vais corriger quelque chose. Le groupe armé n'existe plus mathématiquement sur le papier pour des raisons. Un document a été signé le 18 avril 2009. Et le texte du document, d'ailleurs, moi-même, j'ai apposé ma main sur ce document-là. Il était dit ceci. Le gouvernement accepte d'intégrer les combattants d'autres groupes armés et tout réfractaire. Et alors, toute personne qui pourra encore créer un nouveau groupe en dehors de ceux-là qui ont été répertoriés sur le papier serait considéré comme un bandit armé. Il faudrait que le ministre lise cela sur le papier. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de regretter? C'est le fait qu'on ait demandé à ces autres groupes de rassembler leurs gens dans différents villages où ils se trouvaient. Après les avoir rassemblés, c'est finalement le gouvernement avec son allié, je dis le CNDP, qui va se déverser sur ce groupe-là, commencer à les disperser, les attaquer, et aujourd'hui, là où on les avait dispersés, on n'est pas en mesure de les désarmer ni les regrouper. La faute incombe à qui? La faute incombe à celui qui a planifié les opérations, qu'on appelait je ne sais quoi, Kinyade, ensuite à Manileo, ainsi de suite. Il fallait qu'on regroupe ce qu'on appelle ces gens, ou les amène quelque part, ou on les intègre d'une façon accélérée là où ils étaient. C'était ça la convention faite avec le gouvernement. Qui a appelé ces gens à se regrouper? Je vais vous donner un cas illustratif. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces cas, chaque jour, qu'il y aurait un groupe qu'on appellerait ces cas? Ces cas n'ont jamais été un groupe. Vous vérifiez dans les ordres de bataille de chaque groupe qui sont arrivés à Kinshasa, qui se trouvent à l'état-major général. Aujourd'hui, c'est parmi les officiers d'un groupe armé qui a signé les accords à Goma. Mais parce que, tout simplement, on a voulu utiliser le moyen de répression pour anéantir ce groupe, et pourtant, il y avait une convention quelconque, aujourd'hui, on ne peut plus les contrôler. Et qu'ils ne se trouvent pas dans les ordres qui sont à l'état-major général. En deuxième lieu, lorsque le ministre reconnaît qu'il y a des accointances tribales ou ethniques entre les autres groupes armés et les ethnies. Moi, je voudrais les ramener à la raison. Il est quand même un ministre. Au sein du gouvernement du Nord Kivu, il y a 10 ministères. Sur ces 10 ministères, au moins le gouverneur des provinces, que je respecte beaucoup et je l'encourage d'ailleurs, avait tout fait pour intégrer au moins un ministre de chaque communauté au sein de son gouvernement. Et le ministre avec qui nous sommes en train de discuter sur cette mission, au cours de cette mission. Et ici, on veut dire qui? Est-ce que tu es en mesure d'aller vers son ethnie pour demander à ces jeunes gens, ces petits frères, d'arrêter la guerre qu'ils sont en train de mener contre la population? Est-ce que tu es en mesure de convaincre le militaire au FARDC de ne plus utiliser la répression contre les jeunes dans les villages pour les harceler qu'ils sont mal fortes, même s'ils sont civils, on les considère comme animal? Je crois que c'est à ce point-là qu'il y a même l'incompétence du gouvernement provincial qui devait s'occuper de cela. Hormis le Kinistembo, toutes les autres opinions des ministres au niveau du gouvernement provincial ici. Mais que font ces ministres? Je crois qu'aujourd'hui, la deuxième fois que j'ai entendu, le ministre réagit depuis qu'il y a le processus de paix, depuis qu'il est ministre. Mais tout ce temps, quelle est la sensibilisation que lui a fait en tant que ministre de la communication pour appeler les jeunes gens à l'ordre?
Je crois que
c'est une façon de réfléchir qui incite les autres à croire que réellement l'argument qu'on est en train d'avancer est un argument valable.
Merci Didier Bitaki. Permettez que je vous arrête à ce niveau, le temps de donner la parole à Arsène Mouaka. Arsène Mouaka, peut-on craindre là que l'on ne soit comme dans une sorte de cercle vicieux, hein? Un monstre à plusieurs têtes, et quand on coupe une tête, c'est une autre qui renaît, ainsi de suite.
Je crois que c'est la répétition de l'histoire. C'est-à-dire, il s'agit des gouvernants qui ne s'assument pas. Nos gouvernants tiennent souvent un discours moral à la place de l'action. Ils émettent des souhaits là où il faut agir. Et là, c'est regrettable, parce que je crois que, comme Didier venait de le dire tout à l'heure, le gouvernement a demandé au commandant, c'est-à-dire des acteurs qui étaient connus, qui étaient capables de violence, et certains d'entre eux se retrouvaient déjà dans les rangs de l'armée. J'en connais qui étaient colonels, qui avaient autant de grades, qui sont rentrés sur le terrain, ont commencé des petits groupes, ils ont rassemblé leurs anciens combattants pour apparaître dans les accords. Il faut avouer que tous n'étaient plus sur le terrain des violences, mais ils ont pu quand même rassembler certains acteurs des violences, parfois qui ont été réfractaires à l'intégration, tout simplement. Des gens qui ne voulaient pas faire l'armée, parce qu'il y a des jeunes gens qui se sont battus, qu'on leur a dit que leur terre était prise, mais qui n'avaient pas envie d'intégrer l'armée. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire croire à l'opinion que tous ceux qui se sont retrouvés dans les milices voulaient intégrer l'armée. Nombreux ont fui d'ailleurs l'armée et ils sont rentrés s'occuper d'autres choses et ils sont très nombreux. Et donc, on se retrouve avec un gouvernement qui recrée ses milices pour le besoin de la cause. Et il recrée, les organise et après trouve que c'est inopportun les combats. Donc, il n'y a pas un monstre. Il s'agit d'un gouvernement qui ne s'assume pas. Et qui blague avec la vie des citoyens, et je crois qu'il faut le dire clairement. la plupart des miliciens étaient en accordage avec le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est la rupture du mariage. Le gouvernement ne veut plus d'eux parce que le gouvernement connaît leur capacité. En d'autres termes, le gouvernement sait comment il en a créé certains sur papier et la plupart d'entre eux ont donné une existence après les accords. Et donc, je crois que là aussi, il ne faudrait pas qu'on puisse faire croire qu'il y a réellement un très grand problème. Je crois que si notre gouvernement s'occupait de l'ordre public, de la sécurité des citoyens, et s'assumait comme un État avec une armée, la plupart de ces groupes n'existeraient plus. Et donc, toutes les revendications politiques n'auraient plus de sens. Je crois que nous sommes engagés dans une procédure de démocratisation. La plupart de ces acteurs qui s'estiment être légitimes dans leur milieu seraient mieux de se présenter aux élections et d'être élus.
Situation sécuritaire au Nord Kivu, les autorités locales dénoncent la résurgence des groupes armés à caractère ethnique. Qu'est-ce qui est à la base de la résurgence de ces groupes armés? Toutes les initiatives proposées à ce jour peuvent-elles ramener la paix dans cette partie du pays? C'est le thème de l'émission de ce soir. Avant d'aborder la deuxième partie, voilà, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Toutes les initiatives proposées à ce jour peuvent-elles ramener la paix dans cette partie du pays? Suivant les réponses de personnalités du Nord Kivu contactées par Radio Okapi, on écoute respectivement les professeurs Nyabirungu et Masumbuko au micro, au téléphone de Kéline.
Que ce soit des bandits, que ce soit des groupes armés, on se pose vraiment des questions. Ne sont-ils pas manipulés par d'autres forces qui, pour le moment, n'ont pas envie d'être identifiées ou qui peut-être le sont? Si elles le sont, nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement puisse les identifier, les contacter, s'il y a des choses de négocier avec ces forces, les anéantir. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment nous engager dans une guerre de 100 ans.
Masumbu Kongwati Denis, j'enseigne à l'université de Goma. Moi, je pense que pour le moment, il faut en tout cas approfondir la réflexion. Parce que chaque groupe armé a une thèse qui lui est propre. Et je pense donc que la solution qu'on pourrait envisager pour le moment, il faudrait redéfinir l'ensemble des stratégies qui ont été menées jusqu'ici. Une stratégie particulière devrait être envisagée uniquement pour l'ensemble des Congo. Moi, je pense que personnellement, il faudrait aller plus loin, ouvrir quelque part à l'est du Congo une sorte d'antenne ou une sorte d'état-major spécial des forces armées congolaises.
Douma Balikwisha, je rappelle que vous êtes ministre provincial du plan budget information et presse et porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu. Est-ce que les initiatives proposées à ce jour à l'accord de Goma, de Nairobi, c'est la suite opération militaire, peuvent-elles ramener la paix dans cette partie du pays, au Nord Kivu particulièrement?
Bon, j'aurais tendance à répondre directement par un oui. Mais avant de développer pourquoi je réponds par un oui, je vais juste rectifier une chose. Le gouvernement provincial n'est pas constitué sur base ethnique. Le gouvernement provincial est constitué sur base des représentants de chaque entité. Mais malheureusement, je trouve que les différentes entités, les territoires, la composition de ces territoires représente malheureusement ou par coïncidence certaines ethnies. Quand vous allez dans la partie nord de la province, on saura que c'est telle ou telle autre ethnie. Dans l'autre partie sud, ou que ce soit à Massis ou à Likale ou Routour, on saura que c'est telle ou telle autre ethnie. Donc là, je voulais vraiment préciser cela, corriger cela, c'est-à-dire le gouvernement provincial est constitué sur base des entités. Alors, je disais que ces initiatives peuvent, disons, apporter des réponses, c'est-à-dire il y a eu des négociations. Et la seule condition, c'est que les gens d'abord s'assument, que les gens prennent leurs responsabilités en main. Mais aussi, je disais tantôt, que nous sommes dans un processus. Le processus fait que nous avons des lois aussi qu'on doit édicter, comme par exemple, actuellement, nous avons une loi organique numéro 010/01/011 qui vient d'être sortie, c'est-à-dire c'est une loi portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Cette loi donne cette fois-ci le pouvoir aux administrateurs des territoires, surtout à son article 10, qui précise que l'administrateur du territoire dispose des services spécialisés de renseignement de la police nationale et peut, le cas échéant, requérir les forces armées après autorisation du gouverneur de province. Ce point-là est très important. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, même au niveau des provinces, au niveau des entités, tous ces services spécialisés semblaient, disons, faire cavalier seul. Donc, ils ne reconnaissaient pas l'autorité politique de la place. Or, c'est les politiques qui dirigent et qui orientent même, que ce soit l'armée ou certains services de renseignement. Donc voilà, tous ces arsenaux juridiques qu'on est en train de mettre en place vont essayer de répondre à certains desiderata qui peut-être tel ou tel autre corps n'a pas été tenu, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi des mécanismes de mise en œuvre. Donc c'est moi là, je suppose que ce sont des mécanismes de mise en œuvre à ces accords et qu'on appelle certains groupes armés ou certaines personnes à la patience.
Didier Bitaki, quelle serait pour vous la solution idéale ou la solution durable pour ramener la paix au Nord Kivu?
Écoutez, moi je m'inscris en faux contre le propos de mon prédécesseur, donc le ministre. Je voudrais dire ceci, la solution à ce problème est très simple. Vous savez, peut-être que je pourrais le ramener à un verset biblique, Ecclésiaste chapitre 10, verset 16 jusqu'à 18. C'est là qu'il comprendra que réellement les responsabilités sont effectivement du gouvernement.
Je dis son verset à
avoir compris l'accord. Le problème, c'est d'avoir conclu l'accord et ne pas les respecter. On sait justement lancer dans des distractions qui ne vont pas dans le sens de Dieu la population. Parce qu'on est en train de condamner cette population à des souffrances éternelles. Pourquoi avoir regroupé les groupes armés de combattants dans des milliers et on ne sait pas les récupérer? Moi, je voudrais seulement demander à ce que les termes de ces accords soient strictement respectés, c'est-à-dire prendre les gens. On les amène dans les conditions que les accords prévoient. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est donc le gouvernement central qui a la plus grande part de responsabilité dans ce problème de l'insécurité à l'Est. Le gouverneur se démène, n'importe comment, mais souvent, il se heurte à la résistance du gouvernement central qui a conclu avec le groupe des armées des accords et non le gouvernement provincial. Donc, de toutes les façons, je pense que l'application des accords suppose l'intégration des militaires au sein des FARDC. Et cela devait être sanctionné par des ONG. Pourquoi l'ONG n'est jamais sorti? Les militaires qui sont à l'Est ne sont pas des militaires des FARDC. C'est des militaires de groupes armés jusqu'à preuve du contraire. Qui va publier l'ONG? C'est le gouvernement central. En deuxième lieu, l'intégration des cadres politiques. Le ministre lui-même venait de le dire qu'il y a des politiciens mal de positionnement ici des groupes armés. Ils ont rassemblé les jeunes voulant les inciter à des violences. Mais Ils l'ont fait où? On a parlé de l'intégration à la vie politique nationale de ces cadres, de ces groupes armés. Il y a combien de temps que les accords ont été signés sans que cela ne soit fermé? Je suis en train de comprendre qu'il cherche à assumer des responsabilités qui ne sont pas les seules. Pourquoi je m'inscris en fait contre ce propos?
Didier Bitaki, à vous comprendre, en un mot, si on devrait résumer vos propos, donc si le gouvernement central applique les accords, c'est la fin de l'insécurité.
Certainement, parce que personne ne va vous dire que moi je reste ici, je suis à Hombo, jusqu'à Walikale, ce sont les territoires où le gouvernement m'a laissé. Non, ils vont aller partout et déployer partout parce qu'ils appartiennent désormais au FARDC. Parce qu'il sera sous contrôle du gouvernement provincial, parce que ceux qui ont conclu des accords qui se trouvent dans les massifs, ils vont déjà là où le gouvernement central voudrait le déployer. Mais si on ne sait pas respecter ce terme des accords, comment allez-vous attribuer la faute aux groupes armés que le gouvernement lui-même a installé pour déstabiliser les gens, pour rester hors la loi dans le milieu où ils sont?
Merci.
La faute n'est pas de groupes armés.
Merci. Arsène Mouaka, vous avez suivi tout à l'heure les propositions du professeur Nyabirungu, des professeurs Nyabirungu et Masumbuko. Comment vous percevez ces propositions?
Oui, je crois que de part et d'autre, il est à croire que soit le gouvernement s'engage à respecter ce qu'il a signé, ce qui me paraît illogique, puisque ça sera une spirale infinie, d'autant plus que l'armée nationale n'est pas un océan ou indéfiniment le plutôt pour se jeter. On a besoin d'avoir une armée avec un nombre bien maîtrisé, et non une armée traversée par un syndrome militaire qui nous permettra de faire quoi que ce soit. D'autre part, j'ai cru attendre que les deux éminents professeurs ont dit qu'il va falloir soit les contraindre à quitter la bourse, et je crois que moi je tends vers ces côtés-là. Le gouvernement aurait dû s'assumer et essayer. Le mal, c'est que c'est lui-même qui les manipule, les instrumentalise. Et c'est à ce propos que je me dis, la paix qui est en train de se construire actuellement à travers le monde, particulièrement dans les pays faibles comme le nôtre, la RDC, la Côte d'Ivoire, les Zimbabwe, les Kenya, c'est une paix qui est construite sur une hypothèse qui veut que ce soit des guerres de pauvres, des gens qui se battent puisqu'ils sont affamés ou puisqu'ils veulent les forces politiques ou les forces militaires. Et donc, pour faire la paix, il faut leur donner à manger, il faut leur donner un poste politique et puis c'est fini, c'est la paix. Et je crois que c'est là la thèse même de Didier Bitaki. Et là, moi, j'ai dit, c'est simplifier la question de la sécurité au nord du groupe, puisqu'elle est plus complexe que ça. On peut donner des postes politiques à ce groupe, et ce groupe va donner le meilleur poste, peut-être à son adjoint, et bien, tous les autres vont se diviser et recréer de nouveaux groupes. Je crois que même déjà les postes politiques, les postes militaires, et même intégrer l'armée, c'est aussi une autre base de conflit dans cette région. Je crois que les problèmes sont plus profonds que ça, et la paix au nord Kivu doit se construire. Le gouvernement provincial doit avoir sa politique. Le gouvernement au niveau national doit avoir sa politique. Malheureusement, ça ne finit pas parmi les chantiers de la République. Pourtant, toute la République est engagée dans les chantiers et on voit notre gouvernement provincial assez actif dans la construction des écoles, des barrages, les routes, ainsi de suite. Et j'ai comme l'impression que la paix constituerait la première priorité pour cette province.
Merci Didier Bitaki. Il y a des auditeurs qui ont leur proposition. Robert Bahomé de Bukavu Sud Kivu. Toute initiative de ramener la paix ne peut réussir qu'en dehors des interférences politiques. Sinon, toute autre action attiserait les conflits. Faut-il attendre le pire pour que le gouvernement s'investisse réellement dans la résolution de ces conflits ethniques? Pacifique Mango et Balo de Lubumbashi Katanga. La situation sécuritaire au nord Kivu restera inchangée parce que toutes ces initiatives proposées ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Il serait préférable que celui-ci puisse avoir la culture du respect des accords. Kizito Asondi à Debeni au nord Kivu. Je pense que toutes les initiatives prises ces jours-ci pour finir avec la guerre à l'est de la RDC sont vaines, car on ne sait pas déterminer l'identité des ennemis. Je souhaite que le gouvernement prenne à cœur cette affaire et risquerait de prendre des proportions inquiétantes. Monsieur le ministre Djuma Badikwisha, nous sommes pratiquement dans la dernière, dans la ligne droite hein, de cette émission pour sa clôture. Qu'est-ce que vous répondez hein, par rapport à quelques réactions des auditeurs? Ce sera aussi votre conclusion.
Oui, bon, si je peux répondre, je pense que je répondrai par les derniers propos de notre, disons, éminent chercheur Arsène, que la paix doit se construire. Et comme la paix doit se construire, effectivement, que ce soit le gouvernement provincial où le gouvernement central doit prendre ses responsabilités. Mais ici, malheureusement, et à travers le débat, on l'a remarqué, parfois, disons, les décisions sont prises au niveau central et au niveau de la province, nous ne faisons que accompagner ces décisions.
Mais merci, monsieur. Il faut
être effectivement partie prenante.
Donc,
je voudrais juste corriger une chose.
Très rapidement, parce que l'émission va toucher à
la fin. Très rapidement. Certes, le gouvernement provincial, comme l'a dit Arsène, s'investit dans les œuvres sociales, mais ici, l'armée, la police, fait de la compétence exclusive du pouvoir central.
Merci, monsieur le ministre.
Pour moi, j'avais souligné la loi dont j'ai fait montre à son article 10. On a maintenant cette possibilité.
Merci, monsieur le ministre. Didier Bitaki, un mot pour conclure.
Un mot pour conclure, c'est-à-dire que personne n'a contre-cœur. Donc, les gars, une rancune contre les institutions, le gouvernement provincial ici. Mais ce qui est exigé, c'est quoi? C'est qu'on ne résout jamais une violence par une autre. Donc, faire la guerre aux groupes armés, lorsqu'on n'a pas encore une armée capable de le faire.
Merci, donc, merci Didier Bitaki. Arsène, moi, qu'a conclu, je vous en prie.
Juste pour dire que les hommes ne sont pas faits ou créés pour vivre naturellement ensemble. il doit y avoir d'autres hommes pour les amener à vivre ensemble. C'est la raison d'être de l'État. Notre État doit amener le pouvoir vivre ensemble et tous ces groupes à se remettre au travail et vivre avec les carrés de violence.
Merci à Arsène Mouaka, cette émission est terminée. Merci de votre attention. Merci à Guima Kekelin Kouté, Samuel Kassak, qui ont travaillé sous la supervision de Téléquipe et la Mondo, Mimi King était à la mise en monde, Bob Blando à la coordination technique, Alain Rung à la présentation. Au revoir.